bienvenue à la soirée radiophonique d'Amnet Radio. Comme chaque semaine, nous commençons par l'interview d'acteurs de l'art d'aujourd'hui dans notre émission d'Amnet Art Contemporain. En milieu de soirée, vous retrouvez nos conférences et lectures érotiques dans l'émission Eros d'Amnet. Pour conclure cette soirée, découvrez toutes sortes de sons et laissez-vous aller sur plus d'une heure de musique intégrale. Lors de l'émission d'Amnet, création sonore et musicale, dès à présent, retrouvez les infos, les musiques et les travaux des artistes en vous connectant sur http://damienbourdeau.fouve.fr. Bourdeau s'écrit D-A-U-D.
Some people say that I'm a bad guy. They may be right, they may be wrong. But it's not as if I don't try. I just mess up and I go wrong. But I can change, I can change. I can learn to keep my promises, I swear it. Open up my heart and I will tear it. Any minute now I swear I'll share it. Oh, it's strange, yes it's strange. Oh, I guess it's quite clear. I killed the antelope and deer, and there's no home on my range since I'm a little deranged. But I can change.
Amnet Art Contemporain. Retrouvez chaque semaine un ou une artiste, une curatrice ou un curateur, une asso, un ou une critique de l'art contemporain qui vont nous parler de leur réalisation, de leur parcours, de leurs conditions de travail et de leur vie. Ce soir, nous accueillons
Gaby Farage, collectif du Bruit du Frigo, Bordeaux. Le collectif Bruit du Frigo, c'est une association, loi 1901, qu'on a créée au début des années 90, très précisément en 1992, si je me rappelle bien. C'est une association qui est née d'une prise de position critique par rapport à un vécu d'étudiant en école d'architecture dans ces années-là. Et c'est aussi issu de la rencontre avec d'autres personnes de disciplines différentes, des gens qui étaient à l'époque aux Beaux-Arts de Bordeaux, gens qui étaient dans les sciences humaines. Cette rencontre, elle s'est faite parce que notamment comme étudiant à l'époque, je cherchais un peu à rencontrer des étudiants comme moi, mais d'autres disciplines, pour croiser des questions sur l'urbanisme, l'espace habité par les gens, à partir d'angles d'attaque qui étaient celui de la sociologie, de la psychologie, de l'art, dans l'idée de pouvoir construire une culture de travail interdisciplinaire. Donc en gros, dans la rupture critique avec l'école d'architecture, il y a eu quelques éléments décisifs. Le premier, c'était la question de comment concevoir des réponses architecturales et urbaines pour des gens qui sont une espèce de multitude qui à la fois un ensemble de gens avec des aspects, on pourrait dire, proches, communs, et puis une diversité, une singularité qu'il est difficile de modéliser en urbanisme. Et le problème qu'on avait à l'époque avec l'enseignement du projet, c'était celui du risque de rendre des gens fiction et nous-mêmes de rentrer dans un type de fiction sur la façon de penser l'architecture et la ville, une attitude fictionnelle qu'on retrouve très souvent d'ailleurs dans des agences d'architecture. Même si on est nourri de savoirs qui sont des savoirs, on va dire, sociologiques, anthropologiques, même si on est dans l'expérience directe du rapport à des interlocuteurs, à des habitants, à des clients, à des commanditaires, malgré tout, la question de produire l'espace et d'intervenir sur l'espace où d'autres personnes vivent pose toujours le problème du fait que on a en face de nous une diversité d'usages qui n'est pas répercutée chez l'interlocuteur principal qu'on va avoir comme client. Donc ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect était lié notamment à la question des disciplines qui renseignent la culture de transformation ou de fabrication de la ville et des autres environnements où les gens vivent. Donc, dans les écoles d'architecture, on a un enseignement à partir d'autres disciplines. Il y a un apport en sociologie, un apport en histoire de l'art, un apport de pratique de la représentation, de pratique plastique, un apport scientifique et technique. Il y a un apport spécifique à la conception spatiale, on va dire. Mais on n'apprend pas dans ces formations à coopérer avec des spécialistes d'autres disciplines dès le départ. C'est-à-dire que dans une vie professionnelle, par la suite, on est sans cesse confronté à des pratiques professionnelles qui ont eux-mêmes été formées sur des parcours d'étudiants différents des nôtres. Et donc forcément, les gens raisonnent à partir de catégories intellectuelles, de pratiques de langage et de pensée qui n'ont pas vraiment appris et ne se sont pas essayés à coopérer. Donc on est dans une fabrique de la coopération au mieux sur le tas. Au pire, dans un affrontement de spécialistes. Donc, j'ai commencé assez tôt à squatter les formations de discipline pour rencontrer des gens qui, eux-mêmes, à travers leurs études, avaient un enjeu de conversation avec moi comme étudiant pour pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce que ça pouvait être de construire une culture de travail interdisciplinaire. Le troisième aspect, c'était une nécessité active, on va dire, puisque dans le cadre des études, on restait beaucoup dans un cadre, comment dire, de théorique et de spéculation par le biais d'exercices. Et moi, j'avais besoin de me retrouver confronté à des terrains réels et à mener des expériences dans le réel. Donc, tout en poursuivant mes études, j'ai commencé par monter une démarche recherche-action qui s'est appelée lecture publique pendant plusieurs années. Et puis, à travers cette démarche-là et à travers mes fréquentations estudiantine de l'époque, ça aboutit à créer un collectif qui est devenu une posture intellectuelle, artistique et politique et professionnelle qui dure encore aujourd'hui. Donc on est en 2009. En 2009, le Bruit du Frigo, c'est une structure qui regroupe cinq permanents salariés qui sont deux d'entre eux qui viennent de l'architecture, donc sont architectes diplômés aujourd'hui. Une personne qui vient plutôt du secteur des arts visuels et qui a fait une formation complémentaire en développement culturel, et une autre personne qui est dans l'ingénierie culturelle, et une dernière personne administratrice. Et autour de ces cinq permanents, il y a un réseau d'une douzaine de personnes, dont certains sont artistes, plasticiens, artistes sonores, vidéastes, d'autres sont des chercheurs et des praticiens dans le champ de l'urbanisme, des sciences humaines, et qui, suivant les types de projets sur lesquels on intervient, sont impliqués. Donc, quand on demande de définir le bruit du frigo, on dit souvent que c'est un hybride entre un bureau d'études qui répond à des questions qui lui sont posées par des commanditaires, qui peuvent être des collectivités, des centres sociaux, des équipements culturels, des collectivités territoriales, des habitants, avec des questions appliquées, d'études, d'interventions autour de projets urbains, mais aussi de projets de développement culturel sur le territoire, assez spécialisés sur des pratiques de coopération citoyenne, de coopération d'usagers par rapport à quelque chose qui va modifier des usages, donc notamment le cadre de vie, l'habitat, etc. L'autre dimension de l'hybride, c'est un collectif d'intervention artistique qui a son autonomie d'auteur, on va dire, donc qui a pour objet de questionnement principal les valeurs d'usage de nos espaces contemporains. Donc qu'est-ce que la ville a encore à nous apporter? Quels sont les types de situations qu'on pourrait désirer vivre dans les endroits qu'on traverse et qu'on ne s'autorise pas à vivre, qu'on a pu vivre à une époque qu'on ne peut plus vivre aujourd'hui, par exemple. Et le troisième aspect, qui est un aspect fondateur, c'est un aspect d'éducation populaire et de transmission. L'idée que si on veut se donner les chances de pouvoir construire de meilleurs modes de compréhension et de coopération entre des gens qui sont des usagers d'espaces qu'on peut traverser, soit sous le biais d'habitants, mais même de professionnels, et de gens qui sont les professionnels qui sont appelés à gérer ces espaces et à les transformer ou à les fabriquer, il faut être dans un souci permanent d'outillage et de transmission à tout un chacun pour que la culture de spécialiste ne soit pas confiscatoire, comme c'est le cas dans la majeure partie des situations d'aménagement des territoires qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Après, le bruit du frigo, qu'est-ce que ça représente comme type d'action? C'est des pratiques qui sont essentiellement contextuelles, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment d'action ou de type de projet répétitif dans nos pratiques. Même les projets éducatifs sont des projets qui se construisent spécifiquement par rapport aux gens, qu'ils soient adolescents, jeunes adultes ou adultes. Auprès desquels on est appelé à intervenir, et sur les questions de médiation urbaine, d'études participatives, de production d'espace avec des habitants, par exemple, et bien c'est la même chose, c'est chaque contexte va renseigner la méthode qu'on va mettre en œuvre, va influer cette méthode, même s'il y a des outils qu'on pratique couramment au fil du temps, quoi.
Something I must say, the only really perfect love
is one that gets away.
Là, je vais parler de quelques exemples d'actions. Alors, quand je donne des exemples d'actions qu'on peut mener ou je raconte des projets, je vais essayer de parler des questions que ça nous pose. Pendant assez longtemps, on est intervenu sur des démarches d'urbanisme participatif où précisément des communes notamment demandaient d'intervenir pour construire un cadre de concertation et de dialogue avec les habitants de leur commune sur un projet d'aménagement qui était déjà décidé. Pas forcément la forme du projet, mais l'idée qu'on parte sur un projet d'aménagement, en tout cas que la commune allait partir dessus, c'était décidé, et sur lesquels la commune se demandait comment construire le dialogue avec les gens. Et très régulièrement, dans ces situations de projet, où parfois le projet pouvait être intéressant, enfin je pouvais le juger pertinent, parfois il pouvait me sembler pauvre, on va dire, mais dans tous les cas de figure, très souvent je me disais, mais en fait, le moment où les gens commencent à vouloir construire, les gens, c'est-à-dire un maire, une équipe municipale, des techniciens commencent à vouloir construire un dialogue avec leurs citoyens, c'est toujours le moment où ils savent ce pourquoi ils veulent le construire, alors qu'en fait, ça devrait être un dialogue relativement permanent qui permettrait de dédramatiser les moments où on arrive sur un projet. Et qu'effectivement, on est dans une situation où on a un temps relativement précis pour aboutir ce dialogue, soit sur de la codécision, soit dans les pires des cas pour faire avaler une pilule. Ce sont plutôt des situations où on évite de s'impliquer. Mais dans tous les cas de figure, le moment qui nous manque, c'est un moment d'acculturation, un moment d'échange ouvert, où la question du désir d'être quelque part et de ce pourquoi on est quelque part comme habitant et du désir qu'on a par rapport à ces lieux et de comment ils pourraient évoluer et de quelles projections on pourrait avoir sur la forme de ces espaces devrait être plus l'objet d'une démarche culturelle que l'objet d'une démarche de concertation technique et politique. Et effectivement, quand on travaille avec un groupe habitant ou un groupe d'usagers, quand je dis usagers, ça veut dire que ça peut être les travailleurs d'un, mettons, d'un hôpital, ça peut être, enfin, ça m'est jamais arrivé sur un hôpital, mais ça pourrait arriver, les professionnels qui utilisent un équipement culturel, ça par contre, ça m'est arrivé, ou un équipement scolaire, ça m'est aussi arrivé. Quand on travaille avec eux sur un commentaire sur le lieu de vie, sur un regard rétrospectif sur leur usage de ces lieux et un regard prospectif sur l'usage qui pourrait y être fait, très souvent, on voit qu'il y a du potentiel de réflexion, du potentiel de désir, d'imaginaire, mais que, en gros, comme un jardin, il mériterait d'être un peu aéré, d'être un peu cultivé pour pouvoir fructifier le mieux possible. Et que, très souvent, on a des échanges où, sans dénigrer les gens, quoi, mais on n'arrive pas à avoir une vision un peu riche et approfondie. Situation qui amène souvent, à tort de mon point de vue, mais très souvent, des techniciens, des urbanistes, des architectes et des élus à dire, de toute façon, les gens, quand on leur propose de travailler sur un sujet, ils voient pas plus loin que la crotte de chien ou ils voient pas plus loin que, une résolution égoïste du problème par rapport à leur propre nécessité d'usage. Donc, il y a certainement quelque chose à en retenir. De toute façon, je pense que peu de gens s'impliquent, sur des questionnements collectifs sans avoir, eux-mêmes des nécessités personnelles à travailler dessus. Donc, je pense que chaque nécessité est intéressante et pertinente et importante à prendre en compte dans un travail et de la rendre publique comme nécessité, mais effectivement aussi que si les visions et les modes d'approche d'un problème relatif, par exemple, à l'aménagement d'un espace ne sont pas nourris, eh bien, de façon à avoir une vision globale, les réponses et les prises en compte risquent d'être trop restreintes, trop pauvres pour pouvoir avoir une co-conception riche, quoi. Donc, du coup, au fil du temps, je me suis dit, mais il faudrait pouvoir concevoir ces actions ou qui dépasseraient carrément le cadre d'une sensibilisation à l'architecture ou à la ville ou à l'urbanisme, qui dépasse le cadre d'une action culturelle, éducative, de découverte, il faudrait avoir une action culturelle, artistique, qui serait une action de prospective urbaine permanente ou régulière, où on pourrait travailler sur la vision utopique, pour le coup réellement utopique, puisque utopie, c'est le lieu qui n'est pas, mais en travaillant un axe de désir, c'est-à-dire la ville désirable, l'espace de vie désirable contemporain, quel est-il? Et s'il n'est pas réalisable, c'est pas grave. S'il n'est pas réalisable parce qu'il n'y a aucune intention de le réaliser, c'est pas grave. S'il n'est pas réalisable parce qu'il est trop fantaisiste, c'est pas grave. Autant que c'est pas, c'est s'il est complètement réalisable, s'il est complètement applicable, et que ça n'est pas, faut pas que ce soit la raison principale de rentrer dans ce type de travail-là. C'est-à-dire que qu'on soit dans une vision pragmatique ou dans une vision complètement poétique des choses, ce sont deux aspects fondamentaux du dialogue collectif qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'espace l'espace à vivre. De nos villes ou de nos campagnes qu'on pourrait espérer pour les années à venir. Donc c'est un indice culturel de ce à partir de quoi on devrait pouvoir travailler. Alors moi je ferai une remarque assez simple, par exemple, aujourd'hui c'est pas sorcier de dire que les gens ont du mal à se loger et que la qualité du logement en France comme ailleurs elle s'est peut-être comment dire améliorée globalement tout au cours du XXe siècle, enfin de la fin du XIXe siècle, et au cours du XXe siècle, mais que malgré tout, aujourd'hui, le logement des masses, il est plus pensé comme un produit périssable que sous des critères de valeur ajoutée très forte en termes de volume à vivre, d'espace à vivre, de poétique de la lumière, de confort au sens qui dépasse strictement le cadre du confort thermique, acoustique ou des éco-matériaux. Et que c'est pas aujourd'hui le corps des architectes ou des urbanistes qui est en train de dire, voilà, sous 10 ans, il faudrait qu'on arrive à pouvoir monter le pourcentage d'espace de vie privée des gens de tant de pourcents pour que les logements soient un peu plus grands, par exemple, et parce qu'on sait que l'espace, c'est le luxe. Et donc, il y a une dichotomie très forte entre la production contemporaine d'architecture privée qui peut être valorisée dans des centres d'architecture, dans certaines revues, dans des bouquins, dans des émissions, et les qualités de prestations bâties pour l'habitant lambda, quoi. Donc on voit bien que ce n'est pas les spécialistes qui vont véhiculer une idée ou un désir que, a priori, beaucoup de gens ont de qualité des qualités d'espace à vivre comme une qualité ordinaire et populaire que tout le monde pourrait espérer. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est que aujourd'hui, les formes de l'architecture contemporaine sont nourries très fortement d'imaginaires et de poétiques qui viennent eux-mêmes, ces imaginaires et ces poétiques, bon, de l'histoire de l'architecture, de l'histoire des cultures urbaines, d'une part, mais de la littérature, de la poésie, de l'art contemporain, du cinéma, de la musique, qui donnent des tendances, quoi, qui nourrissent des tendances spatiales, des tendances visuelles. Et je pense que de la même manière, elles sont nourries de culture populaire, c'est-à-dire de ce qu'on peut appeler le kitsch, de ce qu'on peut appeler le bricolage. Et je pense qu'il y a un travail intéressant à faire à partir des capacités ordinaires des gens de formulation de leur propre désir d'espace, de leur propre désir de situation dans la ville, dans l'espace public et pour leurs espaces intimes. Alors les ateliers d'urbanisme utopique, c'est un peu un projet qui va dans ce sens. Donc on propose à des gens volontaires de différentes villes où on est appelé à intervenir, de travailler avec nous à partir de leurs regards, de leurs idées sur des espaces où ils vivent et sur des espaces où eux-mêmes ne vivent pas directement, afin de produire ce que j'appelle des représentations partageables. Parce que dans le projet architectural et dans le projet urbain, quand on a un souci de coopération citoyenne, de confrontation à des usagers, se pose toujours la question que d'un côté, on a des gens qui ont, pour expliquer leur point de vue, la parole, et de l'autre côté, on a des gens qui ont la parole, les plans, les coupes, les images de synthèse, la vidéo, donc tout un arsenal d'outils et d'instruments de représentation qui ne sont pas ni maîtrisés, ni forcément accessibles pour les gens qui ne sont pas spécialistes de ces disciplines. Donc travailler des projets avec des gens qui ne sont pas spécialistes, c'est aussi se poser la question de quels sont les types de représentations partageables, c'est-à-dire accessibles à tous, c'est-à-dire autant à des spécialistes qu'à des gens qui ne le sont pas, de façon à ce que réellement un dialogue puisse se construire à partir de représentations, d'idées que les gens peuvent avoir sur une situation donnée. Donc la technique qu'on a le plus retenue, c'est celle du montage d'images qui reprend un peu le principe du collage. Donc on trouve un lien un peu. En lançant le projet d'atelier urbanisme utopique, je me suis dit qu'il y avait un lien historique avec certaines actions d'agitprop et de la période artistique des années 10-20. C'est-à-dire finalement, les images qu'on produit dans les ateliers d'urbanisme utopique sont des images faites avec des gens non spécialistes et ce sont essentiellement des collages-montages. Et donc, les images produites ont ce rendu-là. Ce n'est pas de l'image de synthèse, ce n'est pas d'image hyper réaliste. C'est évident que la représentation donnée n'est pas, ne peut pas, n'existe pas. Enfin, n'est pas ça exprime clairement une idée, mais en tout cas, ça ne simule pas de façon réaliste l'idée. De façon à ce que on garde toujours cet écart entre un projet, l'idée d'un projet et l'idée d'une réalisation. Et c'est important parce que autour de ces démarches-là, il est important aussi de ne pas créer un malentendu. C'est pas parce que on fait un travail de spéculation et de prospective avec des gens qu'on va avoir les moyens, que ces gens auront forcément les moyens, ou que des interlocuteurs qui ont du pouvoir de décision vont adopter la proposition telle qu'elle va être énoncée et peut-être ne vont pas l'adopter du tout. L'important, c'est d'avoir du matériau de conversation. Donc, on préfère cultiver cet écart entre l'idée, la mise en représentation d'une idée et la négociation nécessaire et le travail nécessaire pour ensuite redéfinir cette idée si la possibilité existe pour arriver à une réalisation définitive. Alors, dans notre histoire, ça a pu arriver que des projets qui partent de la dimension utopique finissent par s'incarner dans le réel et donner vraiment lieu à un aménagement. Et ça resté pour l'instant dans des dimensions d'espace assez mineurs, des espaces publics, des jardins, mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est intéressant, qui peut se jouer derrière ce type d'action-là.
Affaires courantes, des coups de téléphone, il est midi. La vérité n'est sans doute même pas cachée. Elle existe à travers une somme de petits mensonges qui se retournent comme la peau d'un lapin ou des gants. L'art de fumer des cigarettes, de prendre la pause et de dire des mensonges. Classer les clignements des yeux d'une femme par ordre décroissant sur des fiches de couleur qui boivent un peu trop l'encre. Parler comme un français avec brio, aller et retour, développement, complication progressive. Les résolutions pour masquer le manque de simplicité à usage quotidien dont on souffre dans ce pays, la France. Garder finalement le front haut, optimiste, et dire des mots insolents au moment où l'adversaire ne s'y attend plus. Caresser un sexe, un chat ou une feuille tombée sur le trottoir. Du revers de la main, céder à saigner les gens snobs qui décortiquent tout, sucent les os de nos âmes. Parce qu'ils manquent de vie, parce qu'ils n'osent jamais rien faire. À l'ordre du jour, il n'est plus question de répondre aux gens qui veulent nous paralyser. Il n'est plus question de répondre aux gens qui veulent nous paralyser. Il n'est plus question de répondre de rien. Il est midi. Il s'agit de rire à la manière d'un masque de cire pour se cacher et puis de se retourner soi-même comme la peau d'un lapin ou des gants pour voir ce que l'on peut trouver que l'on peut encore trouver. Il est midi.
Ok, donc ces ateliers d'urbanisme utopique, on les a menés sur. Ça a commencé à Bordeaux, c'est la première ville sur laquelle on a pu mener cette démarche en prenant le temps adéquat pour que une démarche intéressante puisse se mener avec des habitants de différents quartiers. Lorsque le travail est réalisé, en fait, on fait une double exposition, on installe. On fait des grands tirages, des idées, des images produites sur des panneaux de chantier qui reprennent la typologie des panneaux de chantier obligatoires lorsque vous menez des travaux sur des bâtiments. Et ces panneaux de chantier qui sont intitulés des imaginaires urbains sont installés à différents endroits de la ville avec les gens qui ont participé. On édite une cartographie de la localisation de toutes ces idées et on fait le double de cette exposition urbaine dans un local pour que à la fois le public puisse faire un parcours dans la ville mais en même temps puisse avoir un endroit où sont synthétisés l'ensemble des contenus. La première ville c'était Bordeaux, ensuite on l'a fait à Marseille, on l'a fait à Nantes, on l'a fait à Bourges, on l'a fait sur... on a commencé à le faire sur Casablanca, voilà. Donc on essaye de mener cette expérience sur le plus d'environnements différents possible, et puis d'essayer de voir au fil du temps comment ça nous amène à faire évoluer le dispositif, qu'est-ce qu'on peut en comprendre. On n'a pas toujours le même temps à dédier à ces actions-là suivant les environnements où on intervient. Et une des conclusions qu'on a prises d'ailleurs, c'est que plus on peut passer de temps et se rendre disponible aux temporalités des gens qui peuvent participer, c'est-à-dire les mener sur des durées relativement longues et régulières, plus ça nous permet d'aller loin dans l'acculturation de projets, parce qu'on ne travaille pas qu'à partir d'idées brutes que les gens ont sur une circulation. On regarde des diaporamas, on propose aux gens de nous amener des images de référence pour eux, on retravaille les idées, il y a de la confrontation, et on voit que plus on peut y dédier de temps, plus c'est intéressant et pertinent dans les idées qui peuvent en ressortir. Alors évidemment, ça nous intéresse aussi de pouvoir bosser avec d'autres personnes sur ces projets-là, c'est-à-dire associer d'autres architectes qui, eux, sont plus dans la maîtrise d'œuvre habituellement. C'est-à-dire l'idée aussi, c'est pas qu'on soit les seuls co-auteurs des illustrations, puisque les autres auteurs, c'est ceux qui énoncent l'idée, et qu'on puisse ouvrir ces pratiques-là à des personnes qui ont une capacité de conceptualisation et de représentation. Évidemment, ça c'est toujours le problème des moyens et du temps et de la rencontre avec des gens qui ont envie de s'impliquer dans ce type de démarche là.
Waldo Jeffers had reached his limit. It was now mid-August. Jumenti had been separated from Marsha for more than 2 months. 2 months, all he had to show were 3 dog-eared letters and 2 very expensive long-distance phone calls. True, when school had ended and she'd returned to Wisconsin, due to Locust, Pennsylvania, she had sworn to maintain a certain fidelity. She would date occasionally, but merely as amusement. She would remain faithful. But lately, Waldo had begun to worry. He'd have trouble sleeping at nights. And when he did, he had horrible dreams. He lay awake at night, tossing and turning underneath his pleated quilt protector, tears welling in his eyes as he pictured Marsha, her sworn vows overcome by liquor and the smooth soothings of some Neanderthal, finally submitting to the final caresses of sexual oblivion. It was more than the human mind could bear. Visions of Marsha's faithlessness haunted him. Daytime fantasies of sexual abandon permeated his thoughts. And the thing was, they wouldn't understand how she really was. He, Waldo, alone understood this. He had intuitively grasped every nook and cranny of her psyche. He'd made her smile. She needed him. He wasn't there. The idea came to him on the Thursday before the Mama's parade was scheduled to appear. He just finished mowing and edging the Adelson's lawn for $1.50, and I checked the mailbox to see if it was at least a word in Marsha. There was nothing but a circular from the Amalgamated Women and Company of America inquiring into his own needs. At least they cared enough to write. There's a New York company. You could go anywhere in the mails. Then it struck him. He didn't have enough money to go to Wisconsin in the accepted fashion, true. But why not mail himself? It was absurd. Would ship himself parcel post special delivery. The next day, Waldo went to the supermarket to purchase Mrs. Rickle. He brought a master tape, a staple gun, and a medium-sized cardboard box just right for a person of his build. He judged that with a minimum of jostling, he could ride quite comfortably. A few air holes, some water, and last but not snacks, and it would probably be as good as going tourist. By Friday afternoon, Waldo was settled. He was thoroughly packed and the post office had agreed to pick him up at 3 o'clock. He'd marked the package fragile, and as he sat curled up inside, resting on a foam rubber cushioning and thoughtfully inhaled, he tried to picture the look of awe and happiness on Marsha's face as she opened the door, saw the package, tipped the deliverer, and then opened it to see her Waldo finally there in person. She would kiss him, and then maybe they could see a movie. If he'd only thought of this before. Suddenly, rough hands gripped his package, and he felt himself borne up. He landed with a thud in a truck, and was off. Marsha Bronson had just finished setting her hair. It had been a very rough weekend. She had to remember not to drink like that. Bill had been nice about it, though. After it was over, he said he still respected her, and after all, it was certainly the way of nature. And even though, no, he didn't love her, he did feel an affection for her. And after all, they were grown adults. Oh, and Bill could teach Waldo. But that seemed many years ago. Sheila Klein, her very, very best friend, walked in through the porch screen door and into the kitchen. Oh God, it's absolutely modern outside. I know what you mean. I feel all the heat. Marsha tightened the belt on her cotton robe with the silk underneath. Sheila ran her finger over some salt grains on the kitchen table, licked her finger and made a face. I'm supposed to be taking these salt pills, but she made them too much. They make me feel like throwing up. Marsha started to pat herself on the chin, an exercise she'd seen on television. God, don't even talk about that. She got up from the table and went to the sink where she picked up a bottle of pink and blue vitamins. Want one? Supposed to be better than steak. And then attempted to touch her nose. I don't think I'll ever touch a daiquiri again. She gave up and sat down, this time near the small table that supported the telephone. Maybe Bill will call, she said to Sheila's glass. Sheila nibbled on the food. After last night, I thought maybe you'd be through with him. I know what you mean. My God, he's like an octopus, hands all over the place. She gestured, raising her arms upward in defense. The thing is, after a while, you get tired of fighting with him, you know. And after all, I didn't really do anything Friday and Saturday, so I kind of owed it to him. You know what I mean. She started to scratch. She was giggling with a hand over her mouth. tell you, I felt the same way. And even after a while, she came forward and whispered, I wanted to crack her. Now she was laughing very loudly. It was at this point that Mr. Jameson of the Clarence Darrow Post Office rang the doorbell of the large sticker-covered frame house. When Marshall Bronson opened the door, he helped her carry package in. He had his yellow and his green slips of paper signed and left with a 15-cent tip that Marsha had gotten out of her mother's small beige pocketbook in the den. What do you think it is? Sheila asked. Marsha stood with her arms folded behind her back. She stared at the brown cardboard carton and sat in the room. I don't know. Inside the package, Waldo quivered with excitement as he listened to the voices. Sheila ran her fingernail over the masking tape and ran down the center of the carton. Why don't you look at the return address and see who it's from? Waldo felt his heart beating. He could feel the vibrating footsteps. It would be soon. Marsha walked around the carton and read the ink scratched label. Oh, God, it's from Waldo! That schmuck, said she. Waldo trembled with expectation. Well, you might as well open it, said she. Both of them tried to lift the staple flap. You must have needed it shut. They tugged on the flap again. My God, you needed power drill to get this thing open. They pulled again. Can't get a grip. They both stood still, breathing heavily. Why don't you get a scissor, said she. Marsha ran to the kitchen, but all she could find was a good sewing scissor. Then she remembered that her father kept a collection of tools in the basement. She ran downstairs, and when she came back up, she had a large sheet metal cutter in her hand. This is the best I could find. Here, you do it. I'm gonna die. She sank into a large fluffy couch and exhaled noisily. Sheila tried to make a slit between the masking tape and the end of the cardboard flap. The blade was too big and there wasn't enough room. God damn this thing, she said very exhausted. Then smiling, I got an idea. What, said Waldo. Just watch, said Sheila, touching her finger to her head. Inside the package, Waldo was so transfixed with excitement that he barely breathed. His skin fell quickly from the heat, and he could feel his heart beating in his throat. It would be soon. Sheila stood quite upright and walked around to the other side of the package. Then she sank down to her knees, grasped the cutter by both handles, took a deep breath, and plunged the long blade through the middle of the package, through the masking tape, through the cardboard, through the cushioning, and right through the center of Waldo Jeffers' head, which split slightly and caused little rhythmic arcs of red to pulsate gently in the morning sun.
Alors des exemples plus ponctuels d'intervention. Qu'est-ce que je peux choisir comme exemple? Là, on est en train de clôturer une résidence d'intervention à Bourges, qui, bon, s'est échelonné sur un an et demi, mais qui à chaque fois était sur des durées assez courtes d'intervention. Donc, c'est sur une invitation d'un lieu de fabrique artistique de Bourges qui s'appelle Emetrop. Et qui nous accueillait en résidence en nous demandant de travailler sur le contexte des quartiers nord de Bourges. Donc, on a retenu un quartier qui est le quartier de la Chancellerie, qui est un quartier qui est séparé du centre de la ville de Bourges par plusieurs grandes figures urbaines, donc notamment la gare, le chemin de fer et la prison, enfin voilà, des figures assez marquées dans le paysage et qui est un quartier populaire où on trouve autant de l'habitat individuel que du logement collectif, du logement social et une proximité assez, assez chouette avec des grandes étendues d'espaces verts qu'ils appellent là-bas la plaine du Goulon. Donc cette démarche, elle a duré, je le disais, quoi, c'est étalé sur un an et demi, mais si on l'apprend de façon cumulée, on va dire, ça a représenté, mettons, peut-être 4 ou 5 semaines d'intervention. Et le projet là-bas, a pris la forme d'une agence d'exploration urbaine qui est un lieu qu'on a ouvert au milieu du quartier pour une raison précisément qui est que notamment il y avait peu de lieux pour croiser les gens, peu de lieux communs accessibles à tous dans le quartier. C'est-à-dire que ce quartier, au milieu du quartier, il y avait un centre commercial qui a périclité, qui est donc une espèce de ruine contemporaine au milieu du quartier, qui est gelée en attendant sa démolition depuis quelques années maintenant, enfin, c'est-à-dire avec une dévitalisation progressive, avec une figure quand même assez agressive au milieu du quartier, puisque ce centre commercial sur dalle, enfin sous dalle, est un lieu relativement sale et dégradé aujourd'hui, que fréquentent les gens du voisinage au quotidien, donc une espèce de verrue urbaine qui est sous leur nez en permanence. Et les autres espaces de vie commune du quartier qui sont de bonne figure, on va dire, c'est un centre social, c'est un point de rencontre jeune, c'est comme ça des espaces qui sont très orientés sur l'action sociale, on va dire. Alors il y a aussi une salle des fêtes dans ce quartier, il y a une salle de spectacle qui s'appelle le Hublot qui sert uniquement à la diffusion, mais pas vraiment d'espace de vie quotidienne où les gens puissent se croiser, où les gens puissent prendre du plaisir à venir. Le seul café qui reste ouvert dans le quartier est un espace qui est peu fréquenté, qui n'a même pas d'enseigne, c'est-à-dire c'est un café sans nom, et qui est situé à un endroit qui est vraiment dans un axe visuel très proche avec des gens qui font du trafic de drogue douce ou pas douce, j'en sais rien, et donc qui fait que c'est pas un endroit très fréquenté pour le coup. Et donc on s'est dit que travailler sur ce contexte-là, c'était une des choses à faire la plus pertinente, c'était peut-être d'essayer d'ouvrir un endroit qui soit un endroit de croisement, de rencontre, qui soit un endroit d'où partent des initiatives citoyennes, des initiatives d'exploration urbaine, des initiatives d'action collective sur la vie quotidienne du quartier, mais en se donnant comme objectif de pouvoir faire venir des gens qui ne sont pas de ce quartier, donc qui sont d'autres endroits de la ville, dans ce lieu-là pour des raisons soit culturelles, soit des raisons d'intérêt, de rencontres ou d'échanges. En essayant de monter un lieu qui ne soit pas stigmatisé, lieu des quartiers nord, quoi. Et alors, je renverrai ça à une remarque qui est aussi quelque chose sur quoi on essaye de travailler. Nous, on intervient très souvent dans des situations urbaines qui sont disqualifiées, qui sont des situations reléguées. Et moi, comme d'autres certainement, j'émets l'hypothèse que ces situations arrivent à un tel état de dégradation parce qu'elles ne sont pas traversées par d'autres, parce qu'elles ne sont pas partie prenante de ce que les gens, dans leur représentation culturelle, se disent être la ville. Alors, je donne un exemple. Quand on modifie quelque chose dans le centre-ville d'une ville, la plupart des habitants se sentent concernés par la modification. Que les gens habitent le centre-ville ou que les gens habitent les quartiers de périphérie, la plupart du temps, les gens se sentent intéressés et concernés par une modification dans le centre-ville. Et c'est relativement compréhensible parce que c'est l'espace de l'idée de la représentation collective de ce qu'est la ville, voilà, de ce qu'est le fait d'habiter la ville comme entité, quoi. Mais lorsqu'il y a une modification, une situation à problème ou de dégradation qui intervient dans un quartier qui n'est pas de centralité, qui n'est pas le centre-ville, la plupart du temps, ça nourrit un imaginaire collectif sur ce que peut être ou doit être ce quartier, mais les gens qui n'habitent pas ce quartier ne se sentent pas forcément concernés par ce qui se passe à cet endroit-là. C'est-à-dire que au pire, ce que ça va fabriquer, c'est c'est le fait de retrancher ce quartier de la représentation collective d'une ville. C'est-à-dire, plus un endroit rencontre des problèmes, plus on va se dire que oui, ce quartier fait partie de la ville, mais c'est pas ce qu'on veut en retenir, quoi. Et lorsque c'est pas un problème, ce qui se passe à un endroit, lorsque c'est juste une transformation, la plupart du temps, bon, bah, les gens suivent l'information, mais ils ne se sentent pas concernés au même titre que lorsque ce sont des espaces de fréquentation centrale. Et donc nous, on se dit que il y a beaucoup de situations qui se dégradent parce qu'on se préoccupe que de l'intérêt des gens qui résident localement sur le site où un problème se pose ou sur le site où une transformation doit avoir lieu. Si on travaillait la question de la transformation urbaine en se préoccupant plus de sensibiliser ou d'associer et du côté des citoyens, si on se préoccupait plus de ce qui est en train de se passer dans des quartiers où on n'habite pas, eh bien certainement on éviterait beaucoup plus de pathologies urbaines qu'on en rencontre aujourd'hui. Et j'ai un copain qui s'appelle Stanley Cambot qui dirige un collectif qui s'appelle Échelle Inconnue, qui fait lui-même un travail sur ce qu'il appelle les invisibles du territoire. Alors pour Stanley, les invisibles du territoire, c'est par exemple les sans-logis, c'est les Roms, tout un ensemble de populations qui sont dans une forme de qui subissent une forme de discrimination. Mais je dirais que les invisibles du territoire, c'est aussi des situations urbaines qui, par leur invisibilité, par le fait qu'on ne les connaît pas, par le fait qu'on n'y va pas, par le fait qu'on ne les connaît que par une réputation, en fait, ça permet que des choses s'y passent qui ne sont pas du registre de l'intérêt général, quoi. Voilà. Et de la même manière, lorsqu'on pense aménagement d'une ville, très souvent on pense normal de faire des types d'investissements en aménagement pour des lieux de représentation publique forte, pour des lieux de centralité, pour des lieux qui ont un impact touristique. Et très souvent, l'aménagement de quartiers de périphérie, de zones plus résidentielles, l'investissement est plus marginal. Mais du coup, ça veut dire que ça produit à la fois une ville discriminée, mais aussi ce que j'appelle un urbanisme fade. C'est-à-dire, si on fait un inventaire de la ville contemporaine, ordinaire, fade, c'est-à-dire des lieux qui exhalent l'ennui, le manque d'aspérité, des choses qui sont un peu toutes similaires, ou qui reviennent, ou qui ne donnent pas envie de flâner, ne donnent pas envie de découvrir, on s'apercevra que ça fait partie des grands problèmes de l'aménagement des villes du XXe siècle, quoi. Voilà. Et du XXIe siècle, bien sûr. Donc, l'agence d'exploration urbaine de Bourges, elle est dans le quartier de la Chancellerie, et l'action qui a été menée à cet endroit-là, on a voulu lui donner une image décalée par rapport au fait qu'elle se passe dans les quartiers nord. Donc on a mené une action avec un photographe qui s'appelle Hervé Dangla et une assistante à lui, une cinéaste israélienne qui est venue l'aider. En fait, on a branché des jeunes volontaires du quartier, on les a branchés pour une séance de photos, pour lancer un teasing sur l'ouverture de cette agence. Donc il y a un lieu de protocole d'exploration urbaine, et puis il y a un lieu de gratuité, de rencontre, de croisement, où il y a différentes pratiques du slam, il y a différentes choses qui peuvent se passer, quoi. Et pour mener cette action de teasing, en fait, on a sapé ces jeunes comme de jeunes VIP, comme de jeunes cadres dynamiques, bien dans la mouvance de notre gouvernement. Donc les filles en tailleur, les gars en costard, on est parti du quartier, on est descendu dans le ruisseau qui traverse de part en part ce quartier et qui rejoint une petite rivière qui passe en souterrain sous la gare et qui rejoint un système de marais et de canaux pour finir dans le centre-ville. C'est-à-dire qu'on a créé une action d'invasion de la ville par voie d'eau avec une équipe de jeunes youpies des quartiers nord qui ensuite ont fait une série de prises de vue, donc une session de shooting photo très orientée photo de mode, on va dire, avec des attitudes assez hautaines, assez conquérante sur la ville dans les espaces de l'évidence patrimoniale, c'est-à-dire dans le centre ancien, devant la mairie, devant la cathédrale, dans le bar restaurant bourgeois le plus connu et réputé de la ville. Et on a utilisé ces photographies comme teasing pour l'ouverture de l'agence d'exploration urbaine, c'est-à-dire aussi dans cette espèce de message implicite qui est que c'est de la périphérie que vient le regard sur l'avenir de nos centralités aussi, hein, et que ce qui est en train de se passer un peu dans l'indifférence de gens qui ne vivent que l'espace à partir de pratiques, soit de consommation d'espace, de représentation, de quartier bobo ou de lieux de la vie quotidienne qu'on valorise dans le marketing urbain. Malgré tout, ce qui est en train d'instruire les crises d'urbanité de nos villes, ça se joue aussi à partir des périphéries. Voilà. 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 Voilà.
I know you wanna do it. You know I wanna do it too. Out here on the dance floor, we can make sandwiches. You can be the bun, and I can be the burger girl. I know you wanna do it. We can make sandwiches. So make your thighs like butter, easy to spread. And we can make sandwiches out here on the dance floor. Come on, we can do it. Yeah, we can make sandwiches.
Dance.